Chapitre 10. Extra Dry. Sur l'une de ces collines qui entourent Nice du plus beau décor qui soit, s'élève, entre le vallon de la Montega et le vallon de Saint-Sylvestre, un hôtel colossal d'où l'on domine la ville et la baie merveilleuse des anges. Un monde s'y presse, venu de toutes parts, et c'est la cohue de toutes les classes et de toutes les nations. Le soir même de ce samedi où Lupin, Grognard et le Balu s'enfonçaient en Italie, Clarisse Mergy entrait dans cet hôtel, demandait une chambre au midi et choisissait au second étage le numéro 130, qui était libre depuis le matin. Cette chambre était séparée du numéro 129 par une double porte. À peine seule, Clarisse écarta le rideau qui masquait le premier battant, tira sans bruit le verrou et colla son oreille contre le second battant.
« Il est ici. Il s'habille pour aller au cercle, comme hier, »
dit Clarisse. Lorsque son voisin fut sorti, elle passa dans le couloir et, profitant d'une seconde où ce couloir était désert, elle s'approcha de la porte du numéro 129. La porte était fermée à clé. Toute la soirée, elle attendit le retour du voisin et ne se coucha qu'à 2 heures. Le dimanche matin, elle recommença d'écouter. À 11 heures, le voisin s'en alla. Cette fois, il laissait la clé sur la porte du couloir. En hâte, Clarisse tourna cette clé, entra résolument, se dirigea vers la porte de communication, puis, ayant soulevé le rideau et tiré le verrou, elle se trouva chez elle. Au bout de quelques minutes, elle entendit deux bonnes qui faisaient la chambre du voisin. Elle patienta jusqu'à ce qu'elles fussent parties. Alors, sûre de n'être pas dérangée, elle se glissa de nouveau dans l'autre chambre. L'émotion la contraignit à s'appuyer sur un fauteuil. Après des jours et des nuits de poursuites acharnées, après des alternatives d'espoir ou d'angoisse, elle parvenait enfin à s'introduire dans une chambre habitée par Dobrek. Elle allait pouvoir chercher à son aise, et si elle ne découvrait pas le bouchon de cristal, elle pourrait tout au moins cacher dans l'intervalle des deux portes de communication et derrière la tenture, voir Dobrek, épier ses gestes et surprendre son secret. Elle chercha. Un sac de voyage l'attira, qu'elle réussit à ouvrir, mais où ses investigations furent inutiles. Elle dérangea les casiers d'une malle et les poches d'une valise. Elle fouilla l'armoire, le secrétaire, la salle de bain, la penderie, toutes les tables et tous les meubles. Rien. Elle tressaillit en apercevant sur le balcon un chiffon de papier, jeté là comme au hasard.
Est-ce que par une ruse de Dobrek, ce chiffon de papier ne contiendrait pas...
Non,
fit une voix derrière elle au moment où elle posait la main sur l'espagnolette. Se retournant, elle vit Dobrek. Elle n'eut point d'étonnement, ni d'effroi, ni même de gêne à se trouver en face de lui. Elle souffrait trop depuis quelques mois pour s'inquiéter de ce que Dobrek pouvait penser d'elle ou dire en la surprenant ainsi en flagrant délit d'espionnage. Elle s'assit avec accablement.
« Non, non, non. Il y a erreur, cher ami. Comme disent les enfants, vous ne brûlez pas du tout. Oh, mais pas du tout. Et c'est si facile. Dois-je vous aider? À côté de vous, cher ami, sur ce petit guéridon. Oh, que diable! Il n'y a pourtant pas grand-chose sur ce guéridon. De quoi lire, de quoi écrire, de quoi fumer, de quoi manger, et c'est tout. Voulez-vous un de ces fruits confits? Sans doute vous réservez-vous pour le repas plus substantiel que j'ai commandé. »
Clarisse ne répondit point. Elle semblait ne pas même écouter ce qu'il disait, comme si elle eût attendu les autres paroles, plus graves celles-là, qu'il ne pouvait manquer de prononcer. Il débarrassa le guéridon de tous les objets qui l'encombraient et les mit sur la cheminée. Un maître d'hôtel vint.
« Le déjeuner que j'ai commandé est prêt ?»«
Oui, monsieur. »
« Il y a deux couverts, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur. » »«
Et du champagne ?»«
Oui, monsieur. » »«
De l'extra dry ?»«
Oui, monsieur. »
Un autre domestique apporta un plateau et disposa en effet sur le guéridon deux couverts, un déjeuner froid, des fruits et, dans un seau de glace, une bouteille de champagne. Puis les deux domestiques se retirèrent.
« À table, chère madame. Comme vous le voyez, j'avais pensé à vous, et votre couvert était mis. »
Et sans paraître remarquer que Clarisse ne semblait nullement prête à faire honneur à son invitation, il s'assit et commença de manger, tout en continuant.
« Ma foi, oui. J'espérais bien que vous finirez par me consentir ce tête-à-tête. » Depuis bientôt 8 jours que vous m'entourez de votre surveillance assidue, je me disais, voyons, qu'est-ce qu'elle préfère ? Le champagne doux ? Le champagne sec ? L'extra dry ? Vraiment, j'étais perplexe. Depuis notre départ de Paris, surtout, j'avais perdu votre trace. C'est-à-dire que je craignais bien que vous n'eussiez perdu la mienne, et renoncer à cette poursuite qui m'était si agréable. Vos jolis yeux noirs, si brillants de haine, sous vos cheveux un peu gris, me manquaient dans mes promenades. Mais ce matin, j'ai compris. La chambre contiguë à celle-ci était enfin libre, et mon amie Clarisse avait pu s'installer, comment dirais-je, à mon chevet. Dès lors, j'étais tranquille. En rentrant ici, au lieu de déjeuner au restaurant, selon mon habitude, je comptais bien vous trouver en train de ranger mes petites affaires à votre guise et suivant vos goûts particuliers. D'où ma commande de 2 couverts, un pour votre serviteur, l'autre pour sa belle amie.
Elle l'écoutait maintenant, et avec quelle terreur. Ainsi donc Daubrecq se savait espionné. Ainsi donc, depuis 8 jours, il se jouait d'elle et de toutes ses manœuvres.
C'est exprès, n'est-ce pas? Vous n'êtes parti que pour m'entraîner.
Oui.
Mais pourquoi? Pourquoi?
Vous le demandez, cher ami.
Elle se leva de sa chaise à moitié, et penchée vers lui, elle pensa, comme elle y pensait chaque fois, au meurtre qu'elle pouvait commettre, qu'elle allait commettre. Un coup de revolver, et la bête odieuse serait abattue. Elle glissa lentement sa main vers l'arme que contenait son corsage.
« Une seconde, cher ami, vous tirerez tout à l'heure, mais je vous supplie auparavant de lire cette dépêche que je viens de recevoir. »
Elle hésitait, ne sachant quel piège il lui tendait, mais il précisa, en sortant de sa poche une feuille bleue,
« Cela concerne votre fils. »
« Gilbert ?»«
Oui, Gilbert. Tenez, lisez. »
Elle poussa un hurlement d'épouvante. Elle avait lu
« Exécution aura lieu, mardi. »
Et tout de suite, elle cria en se jetant sur Daubrecq.
« Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge pour m'affoler. Ah, je vous connais. Vous êtes capable de tout. Mais avouez donc, ce n'est pas pour mardi, n'est-ce pas? Dans 2 jours. Non, non. Moi, je vous dis que nous avons encore 4 jours, 5 jours même pour le sauver. » « Mais avouez-le donc !»
Elle n'avait plus de force, épuisée par cet accès de révolte, et sa voix n'émettait plus que des sons inarticulés. Il la contempla un instant, puis il se versa une coupe de champagne qu'il avala d'un trait. Ayant fait quelques pas de droite à gauche, il revint auprès d'elle et lui dit
« Écoute-moi, Clarisse. »
L'insulte de ce tutoiement la fit tressaillir d'une énergie imprévue. Elle se redressa et, indignée, haletante,
« Je vous défends. Je vous défends de me parler ainsi. C'est un outrage que je n'accepte pas. Ah, quel misérable !»